Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle
sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Campus Amiens, disponible sur 87.7 FM ainsi que sur le DAB+. Bienvenue dans Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Joris Lacquitant, le réalisateur du court-métrage fantastique La Bête. Bonjour Joris.
Bonjour à vous.
Comment ça va ?
Très bien, merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Donc là, je suis dans le studio avec Kevin à la technique et avec Lélia et on a beaucoup apprécié ton film. Voilà, ça a été un plaisir de le regarder ensemble. Du coup, on a préparé vraiment l'interview à trois selon nos différentes réflexions. Avant d'attaquer sur le film, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de ton parcours dans le cinéma ?
Ben, moi, j'ai depuis le lycée ambitionné de travailler dans le cinéma de manière un peu large, pas forcément de réaliser, mais... Et j'ai fait mes études à Beauvais dans un premier temps, où j'ai passé un bac cinéma. Suite à ce bac cinéma, j'ai rejoint le BTS audiovisuel à Amiens. C'est comme ça que je suis arrivé ici.
Donc à l'USARCH ?
À l'USARCH, exactement, en apprentissage. Et dans ce cadre-là, j'ai été en apprentissage avec Pierre Boutillier, qui avait son entreprise à l'époque et qui travaillait en collaboration avec l'association Carmen. Et j'ai travaillé pendant des années avec l'association Carmen, d'abord en apprentissage et puis ensuite en tant que salarié. Après quoi, motivé par mes employeurs, enfin par les gens de l'association Carmen et par Pierre, j'ai passé le concours de la FEMIS en montage que j'ai obtenu. Et après, les choses se sont enchaînées. Depuis, je suis chef monteur principalement sur des courts et longs métrages et épisodiquement réalisateur comme ici avec La Bête.
Alors, tu nous as déjà parlé de pas mal de choses là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la FEMIS, voilà, pour les gens qui ne connaîtraient pas cette école ?
Alors, la FEMIS, c'est une école publique sur concours, qui est l'une des deux écoles publiques de cinéma en France, parmi les plus réputées, quoi. Et c'est une école qui permet de préparer à différents métiers du cinéma, à peu près tous les métiers du cinéma, en fait. Alors, souvent, quand on les énumère, on en oublie, mais je vais essayer. La réalisation, le scénario, l'image, le son. Tous les métiers du son, le décor, le métier de script, et je suis sûr que j'en oublie, et le montage bien sûr que j'ai fait. voilà, et en fait la particularité de l'école, c'est que c'est une sorte de ça donne la possibilité de faire des films ensemble, puisque tous les métiers sont représentés, donc on apprend à faire du cinéma ensemble. Et puis cet autre avantage, c'est que quand on sort et qu'on commence à faire des vrais films ensemble en dehors, et ben on travaille encore ensemble et en fait on grandit les uns avec les autres, donc c'est un tremplin, quoi.
Alors on comprend là à travers ton discours, le cinéma c'est plein de métiers différents, c'est pas que réalisateur. Toi tu as choisi le montage, alors déjà qu'est-ce que c'est le montage finalement, bêtement, et qu'est-ce qui va te plaire toi dans cette étape de production d'un film finalement dans le montage ?
Ben, le montage, un peu vulgairement, c'est le côté, c'est l'assemblage des images qui ont été tournées au moment du tournage. On a une somme de rush, qu'on appelle ça, et on doit en faire une réduction et en même temps révéler le film à lui-même, révéler les comédiens aussi, les aider au jeu, aider le rythme du film et tout. Et il y a une autre partie qui, moi, me passionne, c'est l'accompagnement des cinéastes, d'être une épaule, un soutien. On est là aussi pour les aider à donner naissance à leur film dans des moments où parfois le film a du mal à se révéler lui-même et qu'il va falloir les aider. Et moi, c'est un travail qui me passionne, d'accompagnement, même un peu psychologique d'une certaine manière, des gens avec qui on travaille au quotidien, de les aider à aller au bout du film, quoi.
Oui, donc finalement, c'est une étape aussi où toi, tu vas apporter un peu ton retour sur les images qui ont été tournées aussi, quoi, si j'ai bien compris.
Exactement, et puis d'essayer d'anticiper aussi les questionnements du spectateur, d'un point de vue du rythme, de la narration, de la compréhension des enjeux du film. On est un peu les premiers spectateurs en fait, du film avant même qu'il existe presque. Les réalisateurs et les réalisatrices sont complètement... plonger dans leur scénario là-dedans, et en fait il y a des choses qui n'ont pas forcément fonctionné au tournage, qui ne se sont pas incarnées comme elles le devraient. Il faut parfois réinventer par la forme pour réussir à ce que leur idée soit la mieux retranscrite à l'écran.
Alors donc là on a déjà bien parlé de cinéma, on est déjà bien rentré dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer avant qu'on passe au film, toi ta rencontre avec le cinéma, est-ce que tu as le souvenir un peu de quand t'as mis les pieds dedans et que tu t'es dit ok c'est bon je vais faire ça, quoi ?
Bah en fait c'est, y a, comme beaucoup de gens qui font ces métiers, c'est dans l'enfance et l'adolescence, c'est en faisant des films avec les copains. pour tuer le temps dans notre village. On avait une petite caméra, on faisait des films, on parodiait des films qu'on aimait, etc. On les refaisait. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis mis à un peu bricoler au montage aussi, à m'amuser, même les films de famille, les monter, etc. Et ça a été comme ça un peu la rencontre, en tout cas pour cette passion-là, et même parallèlement à la cinéphilie qui s'est fabriquée autour de ça aussi. Et après, bah, c'est quand même vraiment les études, c'est de me retrouver dans un bac cinéma avec des professeurs qui ont fait leur travail, c'est-à-dire de transmettre, et qui m'ont donné aussi le déclic de dire que c'était vraiment des métiers, que c'était possible d'en faire son métier, quoi. C'était pas gagné de base venant d'une famille d'ouvriers. Enfin voilà, j'avais pas la voie toute tracée pour faire en tout cas d'avoir les portes grandes ouvertes pour rentrer dans ce milieu. Donc c'est par le travail et par les rencontres que j'ai pu aller un peu plus loin, quoi. Mais je tiens à dire vraiment que c'est quand même les enseignants, en fait, qui est leur manière de transmettre à la fois leur amour du cinéma, mais aussi de nous dire c'est possible de faire que les choses se sont faites aussi.
Et ça, c'est chouette aussi de se dire que du coup, les enseignants ont fait leur travail et qu'ils t'ont amené à devenir professionnel dans ce milieu. Alors, on va en venir à La Bête. Première question, est-ce que c'est le premier film que toi, tu vas porter, on va dire, en ton nom, en tant que réalisateur?
Alors, pas vraiment, parce qu'à la FEMIS, en fait, en fin d'études, on doit réaliser ce qu'on appelle les films de fin d'études, qu'importe le département dans lequel on est. Donc, j'ai fait un film de fin d'études de montage, qui était déjà un court-métrage. Et parallèlement, le producteur de La Bête, Arnaud Brutin, était avec moi à la FEMIS. Et les producteurs, la petite particularité qu'ils avaient à la FEMIS, c'est qu'eux ne n'allaient pas réaliser un film, mais en produire un autre d'un étudiant de leur choix qui n'est pas en réalisation. Et Arnaud m'avait offert de réaliser son film de fin d'études qui s'appelait La Baie. Donc bon, on n'est pas loin dans notre titre, mais c'est pas le même film. Et qu'on avait tourné dans la baie d'Oti, dans la baie de Somme. Et donc c'était des films d'études, d'école, mais qui avaient un peu voyagé en festival, tout ça, etc. Et d'une certaine manière, La Bête est le prolongement de tout ça, puisque c'est avec en partie les mêmes personnes, et notamment avec le même producteur.
Chouette. Alors, on n'a pas, on savait pas trop où on pouvait s'arrêter dans la description un peu de l'histoire, parce qu'on n'a pas envie de spoiler ce court-métrage. Est-ce que tu pourrais nous en faire une brève présentation? Voilà, quel est le synopsis du film, finalement?
Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nono, qui va en vacances dans sa famille, une part de sa famille qu'on imagine qu'il connaît pas encore vraiment bien. Et qui se retrouve dans un milieu qu'il ne connaît pas, qui est celui de la ruralité et de la chasse. Mais ce n'est pas une chasse comme on la connaît, et ce n'est pas une ruralité comme on la connaît, parce que j'aime bien mettre ça dans le vernis du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur, et puis du cinéma tout court, en fait. Ce n'est pas un documentaire sur la ruralité, je tiens bien à le préciser, sinon ce serait flippant. Et lui, en fait, par ses yeux d'enfant, étant étranger à ce monde, va aussi y mettre son imaginaire, va teinter tout ça de son imaginaire, et ce qui peut paraître anodin va lui apparaître plus flippant que ça ne l'est peut-être.
Ben, je propose à nos auditeurs qu'on s'écoute un extrait du coup du film, et ensuite on discutera de tout ce dont tu viens de nous parler.
Ta mère, elle veut ta mort ou quoi? Il y a des marécages dans le coin.
Tous les mêmes, de toute façon, les parents, je connais.
Attends, t'as pas de lampe non plus?
De quoi?
Une lampe, t'en as pas?
Non.
Mais elle est inconsciente. On lui avait dit de te prendre une lampe. Putain, on lui a fait une liste, elle est pas foutue de la suivre.
Tu vas faire comment si tu la croises dans le maïs?
Qui ça?
Pas ta mère, la bête. C'est le seul moyen de la tenir à distance. Faut l'aveugler, c'est la base. Ah, on nous apprend ça depuis qu'on est tout petit. Je suis trop choqué que tu saches pas. Allez, je déconne. T'as rien à craindre. Regarde. C'est un trois coups. Deux balles, pour un gibier commun, même un gros, c'est assez. En revanche, pour la bête, ça, crois-moi, ça suffira pas.
Un trois coups, par contre, ça,
si je rate pas, peut-être moyen qu'on s'en sorte vivant. Alors, un conseil de cousin, reste pas trop loin de moi.
Donc voici un extrait de La Bête, le film de Joris Lakitan. Donc il me semble que c'est le premier moment où on parle de La Bête, le moment où La Bête est révélée
et on comprend finalement qu'on va être dans un court-métrage plutôt fantastique, on va dire. C'est un peu ce que tu nous disais juste avant. Et on t'a espionné un petit peu sur Internet. On a vu notamment que tu avais écrit un petit article sur un site sur justement le travail du cinéma qu'il y a autour du fantastique de La Bête. Comment est-ce qu'on prépare un film de genre comme ça dans le fantastique? Et quelles sont est-ce que tu as des références, on va dire, précises à nous donner, voilà, qui t'ont vraiment inspiré pour travailler ce genre et ce fantastique et cette bête?
En fait, avec Arnaud Brutin, c'est toujours un travail un peu commun avec un désir de producteur aussi. C'est-à-dire que quand on vient vous chercher en tant qu'auteur, c'est aussi un désir de producteur de produire des films qui sont parfois en France compliqués à produire aussi, notamment les films de genre et les films fantastiques. Et du coup, ce qui nous a amené à ça, c'est aussi d'aller chercher les choses qu'on voyait ailleurs et qu'on estimait qu'il n'y avait pas suffisamment en France, quoi. Et notamment, on aimait un cinéma français des années 70 qui a existé comme ça, de cette ruralité teintée d'une étrangeté, d'un peu de fantastique, etc. Et qui s'est un petit peu perdu avec le temps. Et puis aussi d'un cinéma avec lequel on a grandi, qui est le cinéma des années 90, qui nous a complètement façonné, qui a fait les cinéphiles qu'on est, les enfants qu'on a été, et qui aujourd'hui font les grands enfants qu'on est. Et du coup, on avait envie de, un peu de mélanger ces deux choses-là. Je ne sais pas si je réponds particulièrement à ta question, mais il y a la question en tout cas, c'est presque, je dirais pas politique, c'est un grand mot, mais c'est en tout cas militant de dire qu'on peut défendre ces cinéphilies-là au sein du cinéma français, que nos territoires peuvent être investis de légendes, de rites, de fantastiques, d'horreur, etc. Et que souvent, on a tendance à être un peu timide sur ces questions-là dans le cinéma français. Et je crois qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, je m'inclus dedans, mais j'en ai inclus plein d'autres, qui ont tellement grandi avec ces imaginaires-là qui viennent les réinvestir, en fait. Donc c'est un peu cette démarche-là. Je ne sais pas si je réponds particulièrement à ta question. Mais...
Tu y réponds un petit peu. Ma question, c'était aussi comment tu l'as préparé aussi, finalement, ce travail particulier sur le genre fantastique.
En fait, c'est un travail aussi avec toute l'équipe. Ça rejoint un peu la même question, c'est que je me suis entouré de gens qui ont mon âge, qui ont grandi avec les mêmes films. Et en fait, c'est un langage qu'on a complètement acquis. C'est-à-dire qu'il y a un truc c'est tellement dans notre ADN de cinéphile et de spectateur que c'est des codes qu'on a complètement... avec lesquels on a fusionné, quoi. Et en fait, justement, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de voir tous ces techniciens, ces techniciennes, ces chefs de poste être sur un film qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire, par ailleurs, mais en étant totalement dans leur élément aussi, et d'amener comme ça. Donc en fait, comme c'est des codes, il faut savoir les décoder, et puis après, essayer de les réappliquer. Et ça, c'est le professionnalisme de chacun à son poste qui fait que on pousse ces curseurs-là du fantastique en termes de mise en scène jusqu'au bout. Enfin.
Et peut-être aussi, pour aller plus loin dans cette réflexion, tu nous dis que c'est difficile à produire en France un film fantastique. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as choisi le court-métrage pour le moment, de se dire, OK, c'est un format plus réduit, c'est peut-être plus facile à produire, à créer?
C'est pas vraiment pour ça, parce que Arnaud Brutin, qui a produit le film, au sein des artisans du film, il produit du court-métrage. Il va, je pense, pas tarder à passer au long, mais c'était de toute façon le quand il est venu me chercher, c'était ce qui était prévu, quoi, de passer au court-métrage. Je dirais pas que ça a été plus simple que de produire un long-métrage, parce qu'en fait on a mis 5 ans à faire le film, donc c'est long, et le film, jusqu'au bout, jusqu'à quelques mois avant qu'on le tourne, il était très fragile économiquement, et c'est aussi la flexibilité de tous les gens qui ont participé au film, les gens qui nous ont aidés et les financeurs qui sont arrivés, notamment au CS, sur la dernière ligne droite, qui ont permis au film d'exister. Mais c'est des films qui, d'un point de vue... Alors, c'est pas du tout le cas, par ailleurs, de la région, qui a tout de suite suivi... ça fait partie des financeurs qui ont tout de suite suivi le film. C'est les premiers à nous avoir donné de l'argent. Mais la question du fantastique, de ce genre qu'on revendique aussi, qui est un petit peu hybride entre un cinéma ancré sur le territoire et en même temps qui vrille vers le fantastique, voire l'horreur et tout, c'est très compliqué à vendre, parce que même quand on est sur des codes comme ça, et si on est sur des brèches, sur des formes un peu hybrides, y a certains retours qui nous disent on ne comprend pas trop ce que vous voulez faire, quoi. Et en fait, c'est tellement plus simple de produire des films. Comme en fait, en France, on produit beaucoup les films sur du papier, j'aime bien dire ça, c'est-à-dire que tout est basé sur le scénario, les dossiers, Il faut qu'en face, il y a une, chez les financiers, chez les gens qui te donnent l'argent, le CNC, tout ça, il faut qu'il y ait une grande confiance dans l'auteur, dans son rapport à la mise en scène, au son, à l'image, etc. Et ça, bah, tant qu'ils n'ont rien vu, c'est assez compliqué pour eux de... Donc on a eu des difficultés en fait, à faire admettre que ça allait avoir de la gueule, par exemple, qu'il y avait un truc, qu'on allait y mettre les moyens et tout ça. Donc en fait... C'est pour plein de, il y a plein de biais, on pourrait avoir une discussion de plusieurs heures sur cette question du financement du cinéma de genre en France, mais moi j'ai grand espoir que de toute façon les gens qui financent vont aussi se renouveler, parce qu'il va y avoir des jeunes producteurs, des jeunes distributeurs, des jeunes personnes qui vont arriver au CNC et tout ça, qui vont faciliter en fait cette espèce de régénération des imaginaires, mais aujourd'hui c'est encore un peu embouteillé quoi.
Et on espère que ça va bouger à un moment donné. Finalement, tu es déjà en train de faire bouger les choses. Enfin, tu fais partie des gens qui font bouger les choses sur ce terrain-là. Il y a un autre aspect, donc ça c'est le premier aspect qui est montré dans le film, c'est l'aspect on va dire fantastique. Il y a aussi un autre aspect qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'il y a quand même de la violence qui est montrée. Il y a quand même des choses assez crues, il y a de la cruauté. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à traiter cet aspect un petit peu voilà, gore, un peu cru dans le film finalement ?
Bah en fait, c'est la question du point de vue de l'enfance. Et pour moi, c'est pas nécessairement pour avoir parfois vécu des trucs similaires. Alors évidemment, là, c'est teinté par le cinéma. J'ai absolument pas vécu des trucs aussi, aussi compliqués. Mais par exemple, la découpe d'un animal ou le moment où il y a un moment en fait où on apprend à l'enfant à faire un coup de grâce à un animal souffrant, etc. En soi, c'est pas forcément, à mon sens, uniquement violent. Il y a de l'ambiguïté là-dedans. C'est que il y a éviter qu'un animal de souffrir, il y a aussi une forme de positif. Et d'ailleurs, il y a toujours des contrepoints au sein du film où il y a des formes un peu de mystique autour de l'animal, de la nature qui se met en place dans certains personnages. C'est difficile d'en parler sans que les gens forcément aient vu, mais pour moi, c'est pas tout blanc, tout noir. Et en fait, c'est le regard de l'enfant sur ce monde-là qui, pour lui, c'est effrayant. Parce qu'il comprend pas du tout les codes, il a pas les codes, il est en apprentissage total de ces codes-là. Et son imaginaire enfantin rajoute à ça, rajoute de l'horreur à tout ça. Et c'est aussi pour ça que c'est un film de point de vue aussi sonore. Il y a plein de choses qui ne sont pas montrées, mais qu'on entend. Parce que c'est, le son, parfois, fait beaucoup plus le travail d'imagination que l'image elle-même. Et ça, c'était un peu notre vecteur aussi, de se dire qu'il faut qu'on soit à hauteur d'enfant et aussi à oreille d'enfant, dans les yeux et dans les oreilles d'un enfant. Et voilà, c'était un peu... Donc c'est de la violence, mais... Enfin, le film n'est pas choquant, je pense. Mais c'est de la violence ressentie à hauteur d'enfant, quoi.
Alors, tu as dit beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir. Peut-être on peut embrayer justement sur cet enfant. C'est quand même l'acteur principal du court-métrage. Est-ce que tu pourrais nous le présenter ? On ne pourra pas présenter tous les acteurs du court-métrage, mais nous, cet enfant, il nous a particulièrement marqué. On a trouvé qu'il jouait super bien. Il était très attachant, il était convaincant. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu cet acteur ?
Alors, il s'appelle Lisandre Robic. Quoi dire d'autre qu'il est formidable ? Parce que, en fait, vous savez, quand on commence à faire un peu à mettre en route la production et qu'on commence à dire, même d'ailleurs chez les financeurs, mais même chez les copains qui font des films, il va y avoir un chien, un enfant, on va tourner la nuit et tout le monde dit mais dans quel bourbier tu t'embarques. Et moi vraiment, je dois le dire, travailler avec Lisandre a été l'une des choses les plus simples sur ce film. C'est un petit gars qui a tout compris. Alors après, la particularité d'avoir des parents assez géniaux et qui sont un petit peu aussi, qui gravitent un peu dans ce milieu, en tout cas son père travaille un peu dans l'audiovisuel, enfin pas qu'un peu, il travaille dans l'audiovisuel et puis sa mère est photographe, donc il a aussi un rapport à ça. Puis il avait une expérience de tournage préalable à 6-7 ans, quelque chose comme ça, donc il avait déjà un peu des... Mais il avait cette joie d'être parmi nous, alors qu'en casting, par exemple, j'ai rencontré plein d'enfants où parfois on sent que les parents les forcent un petit peu à faire ça, qu'il y a une forme de, parfois même de frustration des parents d'une carrière qui n'a pas eu lieu et qui on force un peu les enfants... Lui, pas du tout. Il avait vraiment envie d'être là. Et quand on avait des petits coups de moins bien sur le plateau, comme souvent la fatigue, des embryons de tension, tout ça qui peuvent se créer, on regardait Lisandre vivre sa meilleure vie et on se disait, c'est pas possible, ça nous remettait un peu de l'essence dans le moteur, quoi. Non, il est exceptionnel et j'espère vraiment que... hier on avait l'avant-première parisienne et il a été largement salué par les gens dans le public qui ont vraiment salué sa prestation, Mais en dehors de sa prestation, c'est aussi ce qui humainement il a amené au tournage. Il a vraiment été des épaules pour l'ensemble de l'équipe. Inversement aussi, parce que je dois dire quand même que j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui a été vraiment très patient et très un gros support aussi par rapport à lui et un relais aussi dans ma relation à lui. D'avoir des gens autour qui peuvent prendre le relais, c'est vraiment super. Mais je sais pas quoi dire d'autre, c'est que quelque chose qui aurait pu être totalement compliqué en termes de jeu, en termes de gestion, gérer un enfant sur un plateau, a été vraiment idyllique, quoi. Enfin, on peut pas dire autre chose, quoi.
Et puis quoi de mieux qu'un super jeune pour porter le rôle d'un enfant dans le film qui parle du point de vue d'un enfant. Donc ça, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Donc il y a peut-être aussi du coup un autre point que j'aimerais aborder avec toi, dont tu as déjà parlé, c'est la ruralité finalement. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on a apprécié en regardant le film, c'est qu'il n'y a rien de manichéen finalement. Il n'y a pas un jugement de valeur qui est posé sur la ruralité ou même dire bon ben voilà, dans la campagne c'est comme ça. Juste, on montre une forme de ruralité qui est plutôt traditionnelle, on va dire. On a des chasseurs, on a une ferme, on a des gens qui prient, on a une forme de communauté aussi, finalement. Et voilà, donc mon questionnement, c'était qu'est-ce qui t'a poussé, finalement, à montrer ça, sachant qu'il me semble que les pistes sont un peu brouillées. On ne sait pas exactement quelle année ça va se passer. Il y a le Kangoo qui peut nous dire que bon, on est quelque part dans les années 90-2000, mais finalement, ça pourrait être aussi aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers cette ruralité un peu traditionnelle, finalement ?
En fait, pour moi, la ruralité, c'est juste le théâtre du film. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un documentaire sur la ruralité. J'ai tourné dans mon village natal. Mon village natal, on n'y pratique pas ce genre de rite. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que... déjà, en fait, y ayant grandi, ayant fait aussi mes petits films quand j'étais petit, ça a toujours été pour moi, assez logiquement, le théâtre de l'imaginaire de l'enfance, quoi, puisque... quand je faisais mes films où je me prenais pour un elfe du Seigneur des Anneaux, c'était dans les forêts de ce village. Enfin, ça a toujours été pour moi le théâtre comme ça de l'imaginaire enfantin, donc c'était assez logique en fait d'y retourner. En dehors du fait qu'il y avait des facilités évidentes d'accueil et de production, du fait que je tourne à domicile, quoi. Mais pour moi, ce qu'il y a, c'est surtout que c'est de ramener du cinéma dans ces endroits. C'est parce que bien sûr que c'est du cinéma quand on fait des films sociaux ancrés dans le réel, etc. J'ai pas du tout de jugement là-dessus et je suis le premier spectateur de ces films, mais je trouve que ces décors, ces endroits, ces gens méritent plus aussi. Ils méritent qu'on admette que ils puissent être, que ces endroits puissent être le théâtre d'un rêve entre guillemets de cinéma, quoi, de se dire on peut y mettre autre chose. Et justement, ça, moi j'aime bien que mes films ne soient pas localisés. Je disais souvent sur le tournage aux gens du village, je dis, mais vous savez, on ne va pas reconnaître Auteuil finalement dans le... Parce qu'en fait, on fait des espèces de patchwork de lieux. Les Auteuillois sont complètement perdus quand ils voient le film. Ils se disent, attends, c'est quoi ce lieu qui est relié à un autre, machin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on le voit au Brésil, en Angleterre ou en France, c'est une espèce d'image d'Épinal d'une certaine ruralité de cinéma, qui est une ruralité de fiction, quoi. Et c'est moi qui ai grandi dans la ruralité, pour moi, il y a une forme de beauté dans tous ces rites de transmission, de rites qui sont parfois transmises, qu'on réitère de génération en génération, mais qui ne sont pas aussi poussées que dans le film, mais qui, pour moi, sont précieuses aussi et qui sont un terrain aussi de scénaristique et pour essayer de les pousser un petit peu plus loin, quoi, d'essayer d'y amener... une matière de fiction, quoi.
Alors c'est chouette et c'est vrai qu'on le sent, c'est quand même assez, c'est un film qui est personnel. On est bien rentré là dans les détails du film et je vais laisser la parole à Cléa qui avait du coup quelques questions à te poser.
Donc pour un côté un petit peu plus négatif, quelles ont été les difficultés rencontrées pendant ce tournage ?
Les difficultés, elles sont d'abord financières, c'est-à-dire de trouver l'argent. Ça, c'est une grosse difficulté. Parce que jusqu'au bout, quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'à la fin de la post-production, on en a manqué de l'argent. On a un producteur qui est extrêmement tatillon, a raison sur le fait qu'il fallait que tout le monde soit payé tous les jours sur le tournage, tout ça. Donc en fait, c'était pas du tout un tournage bénévole, tout ça. Donc c'est vraiment à cadrer. Et après, comme j'ai. C'est principalement. Pour moi qui n'est pas un habitué des plateaux en fait, parce que je suis plutôt au confort dans ma salle de montage d'habitude, c'est le rythme de travail. On a tourné le film en 7 jours, dont 2 nuits, Donc c'est, les nuits étaient particulièrement éreintantes. Et je pense que si je réponds seul, je répondrais ça, mais si on demanderait par exemple à Igor, qui a joué aussi la bête, il dirait que porter le costume a été une difficulté, parce que c'était un lourd costume c'était éreintant pour lui. Mais après, j'ai vraiment la chance que j'ai vécu des tournages précédents qui étaient pas loin du tournage catastrophe. Celui-là, il s'est quand même vraiment globalement très bien passé. Et même les petits couacs qu'on a pu avoir ont toujours eu des rebonds miraculeux. Donc en fait, c'est assez rare pour le... Bon, voilà, on a vraiment eu de la chance, quoi. Et tout s'est très très bien passé. Donc les difficultés, elles sont presque plus en amont. C'est réunir l'argent et pas perdre le désir de faire le film pendant toutes ces années aussi. Ça, c'est un autre sujet. De pas effriter le désir de raconter cette histoire au fil des déconvenues qu'on a pu avoir lors du financement. Mais sur le tournage, j'ai eu vraiment de la chance, quoi.
Donc maintenant que tout est terminé au niveau de la production, du tournage, etc., votre film est disponible. Quel regard portes-tu sur sa création et quels ont été les premiers retours du public?
Sur sa création, comme j'ai dit, moi je suis fier de toute l'équipe. Et hier, c'est ce que j'ai tenu à leur dire, on était à une avant-première parisienne hier, c'est que ce qui me rend le plus fier, c'est que l'équipe soit fière du film. Parce que du coup, ça valorise leur travail et moi je me sens valorisé de leur avoir permis d'être fier d'eux-mêmes, quoi. Si ça, c'est hyper important. Et notamment le petit comédien qui était ravi, mais aussi tous les techniciens qui ont vraiment donné beaucoup de leur temps, de leur passion pour que le film soit du meilleur possible. Les retours du public, pour l'instant, sont plutôt enthousiastes, on est content. Après, il y a une autre partie de la vie. Alors après, les retours du public, c'est un petit échantillon, parce que les avant-premières, ça reste quand même des salles relativement petites, quoi. C'est pas non plus... il n'y a pas des milliers de personnes qui ont vu le film. Mais maintenant, il y a une deuxième vie qui doit arriver au film, c'est la question des festivals et qu'il ait rencontré les publics. Je l'espère, pas que de France aussi, qu'il ait un peu voyagé à l'étranger. Et ça, j'ai très hâte. Malheureusement, la balle n'est pas dans notre camp, c'est dans le camp des sélectionneurs et des sélectionneuses. Mais on attend, là. Ça y est, on se lance dans le grand bain des festivals, donc on attend les réponses.
Donc après les festivals, après les avant-premières, où vais-je pouvoir voir le film?
Alors il y a, c'est sûr que sur les courts-métrages, toujours un peu la difficulté, c'est que il y a pas vraiment beaucoup de fenêtres pour les voir. Le film, il est coproduit par OCS et il y aura une version du film. J'ai bien une version parce que la version sur OCS sera plus courte parce que c'est des questions de cases télévisuelles et puis de contrat. Enfin, ils nous ont donné de l'argent et il fallait qu'on respecte un contrat. Et le contrat chez OCS, c'est 17 minutes. Le film en fait 23, donc il y a 5 minutes coupées. Donc, ce n'est pas totalement la version telle que je l'ai pensée. Mais on a essayé de la faire en toute intelligence pour qu'elle soit quand même à la fois regardable et compréhensible. Il sera sur OCS. On ne sait pas encore quand. C'est un peu pareil, c'est un peu à eux de décider de la fenêtre. Et puis après, je l'espère, dans un maximum d'endroits où on veut nous accueillir. Nous sommes toujours prêts pour faire des projections, il n'y a pas de souci. S'il y a des exploitants qui nous entendent, qui veulent faire des soirées qui ne seront plus des avant-premières, mais des soirées de rencontres, de débats, on est vraiment ravis de venir rencontrer le public. On fait ces films aussi pour ça, quoi.
Et donc, pour terminer cette interview, aurais-tu un mot à faire passer à nos auditeurs?
J'ai peut-être un mot à dire, c'est que le court-métrage, c'est sûr que c'est compliqué à... Enfin, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de fenêtres de diffusion, mais il y a plein de festivals dédiés au court-métrage qui existent, et puis il y a même maintenant des plateformes, etc. Et si j'ai un mot à passer, c'est d'aller chercher les courts-métrages, d'aller les voir, de s'intéresser aux courts-métrages. Il y a la fête du court-métrage tous les ans, notamment au Ciné Saint-Leu et à Orson Welles et tout, d'aller s'intéresser à cette forme qui est, si je le dis, c'est qu'elle est fragile. Et elle est fragile aussi, on voit de plus en plus ce qu'on appelle les guichets de financement qui se ferment les uns après les autres. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué d'en produire, pas simplement si c'est du cinéma de genre, globalement... faire des courts-métrages devient de plus en plus compliqué, tous les producteurs le disent. Et est-ce que le public s'y intéresse à cette forme-là? C'est aussi un vivier de jeunes talents, pas que à la réalisation, dans, métiers techniques, etc. Et c'est les formes de demain. Enfin, c'est là où les embryons des films de demain. Et du coup, il faut que le public s'y intéresse, qu'il ait un peu défriché et tout ça. Qu'on soit cinéphile ou non, c'est une forme qui est en plus facile à voir, puisque courte. Et que ce soit à la télé, il y a aussi des courts-métrages qui passent à la télé, très tard le soir en général. Mais voilà, il faut voir du court-métrage pour qu'il continue à exister aussi.
Eh bien, c'est sur ces paroles qu'on va terminer cette interview. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et donc, je le rappelle, nous, à Campus, en tout cas, là, on est 3-4 à l'avoir vu et on a vraiment beaucoup apprécié ton film, je le redis. Donc, pour rappel, tu es donc Joris Lakitan, le réalisateur du court-métrage Fantastique la Bête. Ce film raconte l'histoire d'un petit garçon qui part en vacances dans sa famille à la campagne et qui va voir des choses et il va les interpréter finalement un peu à sa façon, voilà. Et donc, le film, tu nous dis qu'il sera disponible sur OCS donc prochainement. Donc voilà, si on suit un peu ton actualité, on va pouvoir le voir aussi dans des avant-premières, dans des festivals, etc. C'est la fin d'Info Club Sandwich. Donc le podcast de l'émission, il sera disponible sur notre site radiocampusamiens.fr.
On vous laisse avec Thomas qui va vous présenter une chronique sur le film Misanthrope.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Misanthrope de Damien Zifron, un film qui sort aujourd'hui, en ce mercredi 26 avril. 9 ans après Les Nouveaux Sauvages, le réalisateur d'origine argentine Damien Zifron revient avec son 4e long métrage, cette fois un film produit aux États-Unis, Misanthrope. Tout le monde aura fait la blague, le nouveau film de Damien Zifron n'a aucun rapport avec la pièce homonyme de Molière. L'intrigue se concentre autour d'Eleanor, une jeune enquêtrice au lourd passé incarnée par Shailene Woodley, qui se retrouve sur les lieux d'un crime de masse terrible. La police et le FBI lancent une chasse à l'homme sans précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l'assassin, l'enquête piétine. Eleanor, quant à elle, se trouve de plus en plus impliquée dans l'affaire et se rend compte que ses propres démons intérieurs peuvent l'aider à cerner l'esprit de ce tueur si singulier. L'idée de la confrontation entre une jeune femme représentante des forces de l'ordre et un tueur sans pitié rappelle bien évidemment Le silence des agneaux de Jonathan Demme. On retrouve notamment la figure de l'agence du FBI plus âgée et plus expérimentée, cette fois jouée par Ben Mendelsohn. Seulement, là où le film coécrit par Damien Zifron et Jonathan Wakeham diffère avec celui de Jonathan Demme, réside justement dans cette confrontation entre la jeune femme et les tueurs, ce dernier étant loin d'être un psychopathe. Tout du moins, pas comme les Hannibal Lecter dans les romans de Thomas Harris et leurs adaptations au cinéma. Quand Hannibal Lecter fait preuve de perversité et de sadisme, le tueur de Misanthrope est un personnage qui ne trouve pas sa place dans la société, fait le constat d'une civilisation qui s'égare. Aussi bien dans son propos que dans sa forme, Misanthrope, to catch a killer en anglais, renoue avec un certain cinéma états-unien des années 70. La réalisation de Damien Zifron se montre classique, avec peu d'effets spectaculaires dans un beau cinémascope à l'image aussi sombre que son récit. D'ailleurs, il n'hésite pas à privilégier le hors-champ, à user d'artifices pour mettre en scène des séquences d'action, accentuant alors son discours quand une fusillade est visionnée par les protagonistes sur écran de contrôle. De ce fait, Misanthrope devient plus qu'un simple thriller de plus et porte un vrai regard sur la société actuelle, ses modes de consommation, les médias sensationnalistes et leur tendance à spectaculariser le réel, les événements les plus dramatiques, jusqu'à passer la frontière de la décence et tomber dans l'obscénité. Le cinéaste prend une autre direction en prenant le temps de développer son intrigue, en s'attachant aux personnages, avec un intérêt marqué pour les marginaux et les laissés pour compte, ceux mis sur le côté dans une société du paraître et du spectacle. Il décrit avec minutie le travail des forces de police, tout en pointant les aspects les plus scandaleux, la nécessité de résultats pour répondre à une tendance de rendement, son racisme, ses bavures. D'ailleurs, le film, dans sa critique d'une administration inconséquente et irresponsable, n'évite pas quelques poncifs car il adopte la forme d'un thriller états-unien comme on en a tant vu dans les années 90, pour mieux le détourner et distiller un message profondément noir. À travers le portrait du tueur, Damien Zifron signe une œuvre existentielle qui remet en cause nos modes de vie, de consommer, une société qui s'autodétruit dans une insouciance et une bacchanale illimitée. Le film précédent de Damien Zifron s'avérait méchant, avec un regard peu complaisant sur les classes les plus aisées. Si on peut percevoir quelques concessions inhérentes au système de production hollywoodien, comme une utilisation de la musique relativement convenue, Misanthrope se montre suffisamment âpre et nihiliste, assez retors et poisseux pour susciter l'intérêt. Il démontre ainsi que les États-Unis peuvent encore produire des films critiques et qui ne promeuvent pas une vision manichéenne du monde. Cette façon de proposer des personnages troubles et de brouiller la frontière entre le bien et le mal peut rappeler le cinéma de William Friedkin à ses meilleurs moments. Autant de bonnes raisons d'aller voir Misanthrope.
Victims. Every shot found its mark. No casings, not a single stray hair or fingerprint. He didn't come here to die, and he does not want to be found. We're gonna disappoint him.
I'd be working for the Bureau.
You were rejected by the Bureau. It was your psycho eval that did you in. Aggressive, addictive, antisocial. This is the profile of people we arrest, not hire. I think you got Terran. I need you to use it as fuel. To bring me something new. Now. This guy's on a spiral of destruction. Different genders, different races.
There's no pattern.
Somebody trained him. Somebody loved him. Somebody sold him that gun. We find them. We find our guy.
Misanthrope de Damien Zifron avec Shailene Woodley et Ben Mendelsohn est visible dès aujourd'hui dans les salles obscures.